Chapitre 3. Pardéan. Tandis que se décidait ainsi la destinée de Violetta dans ce rapide et sinistre entretien de Belgodère et du prince Farnèse, Charles d'Angoulême marchait au duc de Guise. Le fils du roi Charles IX était si bouleversé d'une terrible colère qu'il emportait comme malgré lui. La scène si funèbre et si douce à la fois, à laquelle il venait de prendre part dans la roulotte, s'évanouissait de son esprit. Il ne voyait plus que le balafré se penchant sur Violetta dans une attitude qui ne laissait aucun doute. Lorsque Guise avait parlé à voix basse à la jeune fille, il avait senti se lever dans son cœur un sentiment qui n'y était pas encore, la haine d'amour la plus implacable des haines. Ce fut les poings serrés, les yeux fous, la figure ravagée par la tempête intérieure, qu'il fonça dans les rangs pressés de la multitude silencieuse, attentive aux gestes et aux paroles de Guise, son héros, son idole. Tout à coup, il se sentit saisi par le bras. Il se retourna vivement. « Le chevalier de Pardéan » fit-il avec une joie farouche. « Ah, vous tombez bien !»« Oui, j'arrive à temps pour vous empêcher de faire une folie. » dit Pardéan. Où courez-vous de ce pas? Insultez Monseigneur le Duc, le fils de David, comme disent nos bons badauds. Peste, vous êtes gourmand. Ils sont ici une armée de guisards. Il n'y avait qu'un homme au monde capable de tenir tête à 10 000 bourgeois qui n'ont rien tué depuis 24 heures et en rage du désir si doux de massacrer n'importe quoi. Cet homme est mort, mon prince. C'était mon père. Tout en cherchant à étourdir Charles de ses paroles, Pardéan essayait de l'entraîner hors de la foule. « Pardéan !» gronda le jeune duc d'un ton de désespoir concentré. « Je veux parler à cet homme !»« Hé, par Pilate !» comme disait feu monsieur de Pardéan, « la vie est bonne au bout du compte. Je ne veux pas me faire égorger, moi. Du moins, pas avant d'avoir dit ma façon de penser. Tiens, moi aussi la langue me démange. » À ce triste sire de Maurevers, et à quelques autres eiousem fariné. C'est du grec, cela veut dire de même farine. Allons, venez, mordieu. Comment, vous ne venez pas? Allez donc, Pardéan, murmura Charles, tandis que des larmes de rage perlaient à ses paupières. Allez, moi je vais à Guise. Le chevalier jeta sur le jeune homme un regard où il y avait comme une tendresse de grand frère. « Vous le voulez absolument ?» dit-il en saisissant une main de Charles. « Je hais Guise. Jamais je n'ai eu dans la tête de tels éclairs de haine. Malheur à lui, puisque je le trouve sur mon chemin. » « Amour, amour, folie et misère !» grommela le chevalier. « Tâchons de sauver ce jeune fou. » Et tout haut, il ajouta, « Par mon père, allons donc, puisque vous le voulez. » Mais, vrai Dieu, la conversation va être drôle. Giboulée, ma bonne vieille rapière, à toi la parole. Pardéan se haussa sur la pointe des pieds, embrassa d'un rapide regard circulaire la foule énorme qui les enveloppait, assura d'un coup de poing son chapeau sur le coin de l'oreille et se mit en marche. À coups de coude, à coups d'épaule, il se fraya un passage et, lorsqu'un bourgeois voulait protester, à la vue de cette figure étincelante de railleuse audace, de cette longue et large rapière sur le pommeau de laquelle se posait une main souple et nerveuse, le bourgeois rengainait son compliment et se rangeait. En quelques instants, le chevalier et son jeune compagnon atteignirent le premier rang et ils virent alors le duc de Guise, le roi de Paris, qui, hautain, livide, l'œil strié de rouge, se tenait devant Crillon et hurlait quelques mots qui se perdaient dans une furieuse acclamation de la foule. La minute était tragique. Voici ce qui venait de se passer. Crillon, celui-là même que Charles IX, au siège de Saint-Jean d'Angély, avait surnommé le Brave, Crillon, brave et fidèle jusqu'à la mort, venait d'apprendre qu'Henri III avait fui de Paris. Et il était sorti de l'hôtel de ville où il était renfermé avec 1 000 gardes et 2 000 Suisses pour rejoindre son roi. Il commandait les gardes. Les Suisses étaient sous les ordres d'un colonel dont le nom nous échappe. Mais lorsque toute cette troupe, composée surtout de blessés, d'éclopés, bandés, boiteux, sanglants, s'était formée en colonne et avait débouché sur la grève, Crillon s'était placé en tête et avait crié « Gardes françaises et suisses !» En avant !» Il y eut alors de vastes remous dans l'océan populaire. Un sourd grondement monta de ses profondeurs, puis les hurlements, les vociférations, les cris de mort se croisèrent, cinglèrent, battirent l'air, mêlés à d'effroyables insultes, à des gémissements de femmes, à des cliquetis de hallebardes. Et puis, soudain, un silence lourd, un silence de plomb. Guise venait d'accourir. D'un signe, il enchaînait la foule idolâtre et la muselait. Et alors le duc s'avançait au-devant de Crillon. Le vieux capitaine, trapu, la moustache grise, la cuirasse bosselée, le visage sanglant, arrêta sa troupe et, d'un geste rude, salua le duc. « Je vois avec plaisir, » dit Guise sur un ton mordant, « que Louis de Crillon ramène ses gardes à sa majesté. »« Vous avez vu juste, monsieur le duc, » riposta Crillon d'une voix de bataille. « C'est donc au Louvre que vous vous rendez ?» Crillon éclata de rire. « Cette fois, vous faites erreur. C'est au roi que je me rends. »« Prenez garde, capitaine !» gronda le balafré. « Vous avez déjà commis une folle imprudence en sortant de l'hôtel de ville. »« Et vous voudriez m'en faire commettre une autre en m'y faisant rentrer ?»« Le roi est hors de Paris, monsieur le duc. Je sortirai de Paris. »« On vous a trompé. Le roi ?» « Un mot, un seul !» interrompit violemment Crillon. « Le chemin est-il libre ?»« Il l'est pour tous les vrais fidèles !» éclata Guise. « Et le roi ?»« Vive le roi, monsieur !» hurla Crillon. « Prenez garde à vous-même, monseigneur. Prenez garde à la forfaiture. Nous avons tous deux l'ordre du Saint-Esprit. En le recevant, nous avons juré fidélité au roi, notre grand maître. » Pour mon serment, je sortirai, dussé-je passer sur le ventre à toute la Sainte Ligue. Et vous, monsieur le duc, que faites-vous de votre serment ? Un grondement de tonnerre roula sur la place de Grève démontée, agitée de furieuses vagues humaines. « Hosanna, filio David ! Gloire au fils de David ! Mort à Hérode ! Henri III. Allô, les gardes ! À la Seine, Crillon ! Guise, devenu affreusement pâle, jetait autour de lui des ordres rapides. Et ses gentilshommes s'élançaient sur tous les points où les troupes de la Ligue étaient disséminées. L'arsenal, la Bastille, le Temple, le Louvre, le Palais, le Grand Châtelet. Crillon leva son épée. Ce fut à cet instant que Charles d'Angoulême et le chevalier de Pardeillan parvinrent au premier rang de cette foule tumultueuse qui tourbillonnait autour des gardes massés en un bloc impassible hérissé de hallebardes et d'arquebuses. Guise, l'idole de Paris, Guise, l'homme des attitudes magnifiques, Guise eut alors un grand geste large et superbe. Et la foule s'apaisa, écouta, avide de l'entendre, de l'admirer encore. À ce moment, le colonel des Suisses, qui jusqu'ici s'était tenu en arrière de Crillon, s'avança rapidement vers le duc et dit à haute voix « Ni moi, ni mes Suisses ne sortiront de Paris. Colonel, hurla Crillon, à votre rang, ou par le sang du Christ, il faut vous battre avec moi jusqu'à ce que l'un de nous deux tombe. Monseigneur, dit le colonel sans répondre, je me rends à la Ligue. Suisses, sortez des rangs. À ce moment, une voix jeune, sonore, vibrante, éclata. Et nul n'eut le temps d'exprimer sa pensée, ni Guise, dont la main tendue vers le colonel s'arrêta en chemin, ni Crillon, qui, prêt à se ruer, fut cloué sur place, ni les Suisses, qui, prêts à déserter, demeurèrent immobiles dans leur rang, ni la foule qui, prête à acclamer, se tut, frémissante, comprenant qu'un drame nouveau se jouait sous ses yeux. Car cette voix, à toute volée, venait de lancer ce cri « Traître, tu te rends à un traître !» Le colonel gronda une furieuse imprécation. Guise, la figure bouleversée de rage, tira à demi sa lourde épée et chercha des yeux l'audacieux insolent qui le souffletait de ce nom de traître. Et il vit alors un jeune homme qui bondissait au milieu du cercle vide, repoussait le colonel des Suisses d'un geste de souverain mépris et se plantait devant lui les bras croisés. Et dans le silence énorme, dans le lourd silence d'angoisse qui pesait sur cette scène étrange, pour ainsi dire fantastique, la voix de ce jeune homme s'élevait encore. « Henri de Lorraine, duc de Guise, meurtrier de mon père, deux fois traître et rebelle !» Moi, Charles d'Angoulême, fils de Charles IX, roi de France, je te déclare félon et te défie en champ clos, soit à la dague, soit à l'épée, à l'heure, au jour, au lieu qui te plairont. » À l'instant, 20 gentilshommes se ruèrent sur Charles, le poignard levé. Mais Guise les contint d'un signe. Il haletait. Ses yeux étaient sanglants, sa bouche écumée. Il cherchait une insulte avant de faire le geste qui livrerait le jeune homme à sa meute. « Fils de Charles, dit-il enfin avec un grincement de dogue en furie, j'accepte ton défi. Mais comme la lâcheté est héréditaire dans ta famille, comme tu pourrais essayer de fuir, je vais te faire précieusement garder jusqu'au jour où moi, le balafré... » Vous ne vous appelez pas le balafré, monseigneur, cria un homme qui, à son tour, s'avança, mais calme, la lèvre ironique, les yeux pétillants d'une sorte de joie étincelante. C'était Pardeillan. D'un coup d'œil, il avait jugé la situation. De la foule houleuse, ce regard clair avait rebondi sur Guise et de Guise sur les gardes de Crillon. Et il avait souri. Immobile spectateur d'abord, il venait de comprendre que Guise allait jeter un ordre d'arrestation. « Sauvons mon petit Louveteau » grommela-t-il. Il marcha sur le duc de Guise, à qui, d'une voix cinglante, il jeta ces mots. « Pardon, vous ne vous appelez pas le balafré. »« Votre nom, à vous, rugit Guise, qui êtes-vous ? » Pardeillan tendit son poing et dit « Ce n'est pas mon nom qui importe, c'est le vôtre, monseigneur. Il y a 16 ans, dans la cour d'un hôtel de la rue de Béthisy... » « La rue de Béthisy ?» murmura Guise, dont les yeux exorbités se posèrent avec épouvante sur Pardeillan. « Oh, si tu es celui que je crois, malheur à toi ! Continue !»« Je continue. Donc, vous veniez d'assassiner l'amiral Coligny. Au moment où vous posiez le pied sur la face sanglante du cadavre, cette main que voilà, monseigneur. » Pardeillan ouvrit sa main toute large. « Cette main s'apesantit sur votre face, à vous, et depuis lors, vous vous appelez le souffleté. »« C'est toi !» rugit Guise, tandis qu'une terrible clameur de mort jaillissait de la foule. « À moi ! À moi ! Arrêtez-les tous deux ! Prenez-les ! Vivants ! Il me les faut vivants !» Alors un effroyable tumulte se déchaîna. Les digues de l'océan populaire se rompirent. Crillon recula jusque sur ses gardes, emporté comme par un mascaré. Le colonel des Suisses, le premier, mit rudement sa main sur l'épaule du duc d'Angoulême. Au même instant, il s'abattit comme une masse. Pardeillan venait de tirer sa rapière et, d'un coup de pommeau violemment asséné, lui avait fracassé le crâne. « Guise, Guise !» cria Charles. « Souviens-toi que tu as accepté mon défi !»« À mort ! À mort !» hurlait le rauque rugissement de la foule. Vivant, je les veux vivants, vociférait Guise. Ses cris, ses gestes, cette effroyable mêlée d'expressions sauvages, de figures sans humanité, de fauves hurlements, de regards pareils à des éclairs, de voix pareilles à des tonnerres, tout ce tableau de furie où fulgurait l'éclat livide des hallebardes, des épées et des poignards, toute cette scène convulsée, que, de loin et de haut, dominait l'ardente et fatale figure de Faustin, penchée sur sa fenêtre, tout ce vertigineux ensemble d'attitudes intraduisibles se développa dans la seconde même où le chevalier de Pardeillan avait jeté au roi de Paris cette formidable insulte « Tu t'appelles le souffleté !» Au moment où, d'un coup de pommeau, le chevalier abattait au pied de Guise le colonel des Suisses, il saisit Charles, son Louveteau, à plein bras et se mit à bondir vers Crillon, vers la troupe des gardes immobiles et pâles. Il tenait sa rapière par la lame et se servait du pommeau comme d'une massue. Et cette massue, dans cette main puissante, tourbillonnait, bondissait, frappait, enveloppait des éclairs de l'acier. Ce fut ainsi qu'il se fraya un passage jusqu'à la troupe de Crillon, parmi les gentilshommes de Guise rués sur lui. « Rendez-vous, Crillon !» vociféra Menneville, un des fervents de Guise. « Livre-moi ces 2 sangliers !» hurla Guise, « et tu sortiras avec tes hommes d'armes !» À ce moment, Pardeillan se dressa sur la pointe des pieds et leva très haut de son bras tendu sa rapière vers le ciel. Il apparut ainsi un inappréciable instant, les vêtements déchirés, du sang au front, étincelant, prodigieux d'audace et d'ironie, dans les rayons du soleil qui l'enveloppaient d'une gloire. Et alors, d'une voix qui résonna comme du bronze, à l'instant où Crillon et Perdu se voyaient débordés, où les gardes allaient se débander, où Guise déjà poussait un rugissement de triomphe, Pardaillan tonna « Trompette, sonnez la marche royale !» Électrisés, soulevés par l'enthousiasme des grands chocs, les hommes d'armes hurlèrent dans un grand élan tragique « Vive le roi !» Et ils se mirent en marche, tandis que la fanfare royale éclatait, rebondissait, envoyait ses échos claironnants aux horizons de la grève et dominait l'épouvantable tumulte. Et, en avant, l'épée haute, près de Charles qui l'entraînait, près de Crillon stupéfait qu'il admirait, en avant, pareils à ces héros des antiques épopées d'Homère, le chevalier de Pardaillan marchait, fonçant dans la foule, entraînant les hommes d'armes, creusant un sillage à travers les masses des ligueurs et les infernales clameurs de mort. Des coups d'arquebuse éclataient. Des groupes de bourgeois armés de piques se lançaient sur la troupe de Crillon. Mais la fanfare, la marche royale couvrait tous les bruits et la voix de Pardaillan retentissait. « En avant ! En avant !»« Mes hommes d'armes, mes ligueurs !» balbutiait Guise, ivre de rage et de honte, chancelant de fureur. Les hommes d'armes de la Ligue étaient disséminés aux quatre coins de Paris et n'apparaissaient pas encore. Maintenant, devant la troupe de Crillon, devant ce long serpent hérissé de fer, devant ces blessés qui s'avançaient d'un pas pesant et régulier, la hallebarde croisée, les multitudes de bourgeois s'ouvraient, fuyaient, les uns courant s'armer, les autres déchargeant leurs pistolets au hasard de l'affolement. Pardaillan avait remis sa rapière au fourreau. Il marchait en tête d'un pas rude et criait « Place au roi ! Place au roi !» Et il y avait une telle ironie dans ce cri que ceux qui l'entendaient ne savaient de quel roi le chevalier voulait parler, ni si c'était vraiment pour le service d'un roi que flamboyait le regard de cet homme. En quelques minutes, les hommes d'armes de Crillon furent hors la grève et déjà, par les quais, ils marchaient droit à la Porte Neuve, tandis que le tumulte grandissait, que les profondeurs de la ville mugissaient et qu'il y avait dans l'air comme un formidable frisson de bataille et d'assaut. À ce moment, 1000 ligueurs, commandés par Bussy Leclerc, armés d'arquebuses, toutes chargées et prêtes à faire feu, débouchèrent au pas de course sur la place de grève, venant de la Bastille. « Enfin ! Enfin !» rugit le duc de Guise, avec un indescriptible accent de joie sauvage. Il allait s'élancer vers Bussy Leclerc. Une main, tout à coup, se posa sur son bras. « Que voulez-vous » gronda-t-il d'une voix rauque à celui qui venait d'arrêter son élan, un gentilhomme vêtu de velours noir, qui, silencieux et sinistrement paisible dans toute cette rumeur, semblait un roc sévère autour duquel roule et gronde la mer furieuse. « Lisez ceci, monseigneur duc, » dit le gentilhomme qui tendit un pli fermé. « Eh, monsieur, vociféra Guise, tout à l'heure, demain !»« Demain, il sera trop tard, » dit l'homme vêtu de noir. « Cette lettre est de la princesse Fausta. » Le duc, qui s'élançait, s'arrêta court avec un profond tressaillement. Il saisit la lettre d'un geste où il y avait comme du respect et une sourde terreur. Il brisa le cachet et il lut. L'effet de cette lecture fut foudroyant. Le duc chancela, son visage devint couleur de cendre. Ses yeux prirent une expression égarée. Un rude soupir déchira sa gorge et, du revers de la main, il essuya son front couvert d'une sueur froide. « Vos ordres, monseigneur !» cria Bussy Leclerc en s'arrêtant devant lui. « Mes ordres ! » balbutia le duc, dont les mains convulsives froissaient la lettre terrible. Il jeta sur tout ce qui l'entourait un regard où luisait une folie de désespoir et peut-être de meurtre. Puis, d'une voix basse, pareille à un gémissement, « À l'hôtel, messieurs ! Suivez-moi à l'hôtel de Guise !» et il s'élança d'un pas chancelant, suivi de ses gentilshommes stupéfaits, oubliant Bussy le Clerc et ses 1000 ligueurs, oubliant Crillon, oubliant Pardeillan et le duc d'Angoulême, oubliant tout au monde, jusqu'à Belgodère, à qui il voulait faire transmettre ses instructions, jusqu'à sa passion, jusqu'à Violetta. Pardeillan avait continué sa marche foudroyante, entraînant Crillon et ses hommes d'armes. À travers des foules de ligueurs hurlants, mais qui, sans chef, sans armes, n'osaient attaquer, la troupe de Crillon atteignit la Porte Neuve, au moment où, des deux Châtelets, du Temple, de l'Arsenal, s'élançaient en courant vers la Grève, les compagnies prévenues. La porte fut franchie, et lorsque les dernières gardes françaises furent de l'autre côté du pont-levis, il y eut dans les masses profondes des bourgeois de longs cris de rage impuissante. Alors Crillon se jeta dans les bras de Pardeillan. « Mon surnom de brave n'est plus à moi, dit-il, il vous appartient. »« Partez vite, si vous m'en croyez, fit le chevalier. Nous échangerons les salamalecs de rigueur un jour qu'il fera moins chaud. »« Oui, mais de quel côté me diriger? J'ignore où est le roi. »« Je l'ai vu hier fuyant et fort pâle. » Un triste sire entre nous, monsieur de Crillon. Quoi qu'il en soit, il prit la route de Chartres. Venez avec moi, monsieur, s'écria Crillon, en admirant l'étincelante et fine physionomie de son sauveur. Le roi vous fera colonel. Eh, monsieur, fit tranquillement Pardeillan, je suis déjà maréchal moi-même, et c'est énorme. Pourquoi me faire colonel des autres? Crillon secoua sa crinière. Je ne vous comprends pas, dit-il. N'importe, vous êtes un rude compagnon. Mort de ma vie, le roi, s'il avait 10 serviteurs taillés sur votre modèle, serait demain sur son trône. Allons, adieu. Votre main? La voici. Votre nom? Chevalier de Pardeillan. Adieu, monsieur de Crillon. Dites au roi qu'il ne m'oublie pas dans ses prières à la prochaine procession. Le brave Crillon, ébahi, ne sachant si le chevalier avait parlé sérieusement, se tourna vers ses troupes, commanda « En avant !» et se mit en route en saluant une dernière fois de son épée cet homme dont l'intrépidité l'avait émerveillé et dont chaque parole le stupéfiait comme une énigme d'ironie. Pardeillan prit le duc d'Angoulême par le bras et simplement, comme si rien d'extraordinaire ne se fût passé, « Rentrons par la porte Montmartre et allons nous reposer en vidant un broc de Suresnes à la Devinière » chez cette bonne dame Huguette Grégoire, une vieille connaissance à moi. Le vin de la Devinière, monseigneur, a pour moi un grand charme. C'est que mon père l'aimait, et quant à Huguette, elle m'aime. Et cela me rappelle les temps radieux d'espérance où j'aimais, moi aussi. Sur ces mots prononcés avec une mélancolie poignante qui ne lui était pas habituelle, Pardeillan entraîna Charles d'Angoulême, tout étonné de surprendre dans le clair regard de son compagnon quelque chose comme une buée vite évaporée au soleil. Laissons Pardeillan et Charles d'Angoulême rentrer dans Paris et revenons un instant au duc de Guise qui venait de s'élancer vers son hôtel, laissant Bussy le Clerc sans ordre, tout stupéfait, au milieu de la place de Grève. Sous ses allures de magnifique gentilhomme, sous l'ambition effrénée qui surchauffait son cerveau, sous cette passion même qui le brûlait pour une pauvre petite fille de Bohême, Henri de Lorraine, duc de Guise, roi de Paris par la force, presque roi de France par l'immense désir de la Ligue, vaste œuvre qui avait étendu ses tentacules sur tout le royaume, cet homme donc, sous des dehors de prospérité inouïe, poussé ou plutôt conduit par la main de la fortune, prêt à monter sur le trône, cet homme qui faisait trembler des rois, portait au cœur un mal terrible, un ulcère rongeur qui, peut-être, fut un obstacle décisif à sa volonté d'entreprise politique, la jalousie. Guise faillit à sa propre fortune. L'histoire, qui s'arrête aux gestes extérieurs, montre un étonnement naïf de ses hésitations. Elle constate avec stupeur ses brusques arrêts, ses reculs inconcevables. Sur la place de Grève, au lieu de se mettre à la tête des 1000 ligueurs que lui amène Bussy le Clerc, il tremble, il abandonne la foule qui l'acclame, se retire, se sauve presque en son hôtel et laisse sortir de Paris les 3000 hommes de Crillon qui allait être le premier noyau de l'armée avec laquelle Henri III devait assiéger Paris. Que s'était-il donc passé d'effroyable? Quelles catastrophes s'étaient abattues sur cet esprit violent et le paralysé? Tout simplement, Guise avait lu la lettre de la princesse Fausta que le cardinal Farnèse lui remettait. Tout simplement, cette lettre contenait ces lignes. Le comte de Loigne n'est pas de ceux qui sont sortis de Paris à la suite d'Hérode. La duchesse de Guise, que vous croyez sur la route de Lorraine et que vous avez conduite vous-même il y a 2 jours jusqu'à Lagny, vient de rentrer dans Paris. Quelqu'un vous attend en votre hôtel pour vous expliquer ce double événement.